Bonjour. Alors, on va aller droit dans le vif. Un jour, un homme est venu voir Jésus en lui demandant qu'est-ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. C'était manifestement un homme religieux et Jésus le renvoie donc à ce qu'il était censé savoir. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère. Ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Mais cette réponse ne convient pas à notre homme. Tout ça, il le savait déjà, mais ça ne le satisfaisait pas. En fait, il pensait déjà être clean par rapport à ses commandements qui étaient assez basiques pour lui, mais il pensait que ça ne suffisait pas et il cherchait le truc en plus qui pourrait lui permettre d'être sûr d'avoir la vie éternelle, peut-être qui lui permettrait d'être meilleur que les autres. Alors Jésus continue, comme pour satisfaire à ce désir de plus, et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. » Et cette réponse déconcerte non seulement notre homme, mais aussi les disciples de Jésus. Si même un homme réglo comme lui n'a pas la vie éternelle, qu'en est-il pour les autres? Alors ce matin, j'aimerais simplement relever la référence que fait Jésus au commandement. En fait, ça correspond à la deuxième moitié de ce qu'on appelle les 10 commandements. Ces commandements qui ont été donnés par Dieu au peuple d'Israël via Moïse. Ça, c'est une représentation cinématographique bien connue de Moïse. Et ces commandements inaugurent tout un système de lois qui font l'objet d'une grosse partie de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et les Juifs sont connus pour être très attachés à cette loi. Et même des rabbins et d'autres spécialistes de la loi en ont rajouté, ont fait plein de commentaires, et ça fait un ensemble très vaste et très complexe. Et quel est l'enjeu alors de toutes ces lois? Simplement la vie éternelle. Si le péché se définit comme une transgression de la loi, alors le moindre manquement à une de ces règles est une transgression de cette loi et est donc péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit rappel de ce que j'ai eu l'occasion de dire ici il y a presque 3 mois, où j'avais parlé des 10 commandements et je m'étais attaché à la première partie. Aujourd'hui, on va voir la suite. Alors, certains commentateurs disent, oui, la première partie, ça parle surtout des relations entre Dieu et les hommes, Dieu et son peuple, et la deuxième partie parle surtout des relations entre les hommes. C'est peut-être un peu plus subtil, mais ça nous aide à avoir quelques idées claires. Alors, lisons ensemble les versets 12 à 17 du chapitre 20 de l'Exode. « Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. » En fait, aujourd'hui, nous allons juste nous attarder sur les 5 interdits. Et pour le premier, honore ton père et ta mère, je vous invite à revenir le 25 mai où on fera une séance spéciale pour celui-là. Donc, qu'avions-nous vu la dernière fois en résumé? Première chose, c'est quel est le contexte dans lequel ces commandements avaient été donnés au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël venait d'être libéré de plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils se retrouvaient comme ça tout seuls dans le désert. Enfin, je dis tout seuls, mais ils étaient déjà nombreux. Et il y avait tout à faire pour former l'identité de ce peuple. Et tout était fondé sur la relation que Dieu voulait avoir avec ce peuple. Donc c'est Dieu qui a donné cette loi dans le cadre d'une alliance qui allait attacher ce peuple à Dieu. En fait, si on se met dans le référentiel du système de loi que nous on connaît, on peut dire que c'est un peu comme leur constitution. Alors une petite remarque, parfois on a tendance à voir tout ce qui est loi uniquement comme une série de contraintes qui restreignent nos libertés, mais il faut voir aussi que la loi, et en particulier la loi de Dieu, peut être vue comme un cadeau qui nous est fait pour ne pas que nous tombions. C'est comme si on marche, c'est plus sécurisant de marcher sur un chemin que de marcher à travers la broussaille et dans les trous et on ne sait pas quoi. Voilà, deuxième point. Aujourd'hui, soyons conscients que nous sommes dans un autre contexte que ce peuple d'Israël. Nous ne sommes plus sous cette même alliance qui était entre Dieu et ce peuple. Mais aussi, nous vivons dans une société qui est différente, avec tout un autre système de lois auquel nous devons obéir. Et la Bible nous parle d'une autre alliance qui surpasse totalement cette première alliance avec le peuple de Dieu et qui est inaugurée en Jésus-Christ. De ce fait, nous ne sommes plus soumis, de même que le peuple d'Israël à l'époque, à l'intégralité de toute cette loi à la lettre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des choses sur Dieu, sur ce qui est important pour lui, sur ce qu'il attend de nous. Et en fait, ça nous donne encore plein de principes qui sont valables encore aujourd'hui. Donc j'allais dire, on applique encore la loi, mais dans un autre contexte, d'une autre manière. Je rajouterai aussi que, même si nous allons examiner ces cinq derniers commandements un par un, ce qui compte, c'est aussi de les prendre dans leur ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des lois séparées, mais c'est vraiment un tout cohérent qu'il faut prendre en considération. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la citation que Jésus faisait tout à l'heure dans le passage que j'ai cité, la citation qui faisait des commandements, ce n'étaient pas exactement les mêmes, ils n'étaient pas forcément dans le même ordre, et il y en avait un qui était rajouté, c'était « ne fais de tort à personne ». Mais pour autant, ce n'est pas choquant, parce que c'est cohérent avec l'ensemble de ces commandements. Alors, pour chacun de ces commandements, je vais vous proposer aujourd'hui une autre clé de lecture que celle qu'on peut avoir l'habitude, où on peut voir, ben voilà, je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça. Ce que j'ai surtout envie qu'on retienne, c'est ce qu'on apprend sur Dieu derrière chacun de ces commandements. Alors, commençons avec « Tu ne commettras pas de meurtre ». Alors, peut-être juste une petite remarque préliminaire sur la formulation de ce commandement. Dans certaines anciennes traductions, on a « Tu ne tueras point ». En fait, c'est un peu plus précis que ça. Le terme hébreu utilisé désigne vraiment un homicide volontaire. Donc, c'est pas « tu ne tueras pas d'animaux », par exemple. C'est pas un accident, c'est pas des condamnations à mort légales, ce n'est pas des faits de guerre, c'est vraiment la question de l'homicide involontaire, un meurtre. Alors, qu'est-ce qu'un tel commandement peut nous apprendre sur Dieu ? Tout simplement, ce qu'on peut y voir, c'est que Dieu accorde une grande importance à la vie humaine. Et quand on y réfléchit, c'est pas surprenant, c'est même logique. C'est lui qui a créé l'homme. Donc c'est normal qu'il lui accorde une grande importance. Il y tient. Il veut pas qu'on y porte atteinte si facilement. Un meurtre, c'est casser en quelque sorte le projet de Dieu, casser sa construction. D'ailleurs, le premier commandement, en quelque sorte, qu'il a donné aux hommes, à Adam et Ève, c'est « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Alors, il est évident que le meurtre, ça va à l'encontre de ça, n'est-ce pas ? Donc, c'est une question de cohérence. Dieu est cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce commandement « Tu ne commettras pas de meurtre » ? Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ça peut sembler facile. Moi, c'est bon, j'ai jamais tué personne et j'en ai jamais eu envie, quoique. Alors, on est conscient que c'est super grave, n'est-ce pas, de tuer quelqu'un, de commettre un meurtre. Et pourtant, quand on y regarde de plus près dans la Bible, Jésus va plus loin dans cette compréhension de cette loi. Tu ne commettras pas de meurtre. On peut lire dans un discours qu'il a donné, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Là, tout d'un coup, on fait moins les malins. Contrairement à la plupart des lois, Jésus ne s'intéresse pas uniquement aux actes qui sont commis, qui sont avérés, mais il se préoccupe de ce qu'il y a aussi en amont. Il attaque le mal à la racine, entre guillemets. Il s'intéresse à nos pensées, à nos paroles, qui sont peut-être plus difficiles à sanctionner par une loi, n'est-ce pas ? Insulter quelqu'un, se mettre en colère contre lui, pour Jésus, ça relève de la même intention que le meurtre. Plus loin dans la Bible, l'apôtre Jean écrit « Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. » On y revient, la vie éternelle. Passons au deuxième commandement. « Tu ne commettras pas d'adultère. » Alors, d'après le petit Robert, un adultère se définit comme un rapport sexuel volontaire d'une personne mariée avec une personne autre que son conjoint. Alors, dans la loi française, on retrouve aussi une disposition du même genre dans la partie du Code civil relative au mariage. Alors, si vous êtes marié ou si vous avez assisté à un mariage à la mairie, vous avez déjà entendu cet article 212 qui dit « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. » Mais alors, quelle est la différence entre « tu ne commettras pas d'adultère » dans la loi juive et cette obligation du Code civil ? Ce qui me frappe avant tout, c'est la différence d'importance relative qui est donnée à cette règle parmi tout le système de loi. Dans la loi française, cette règle est vaguement diluée dans le 212e surplus de 2500 articles du Code civil concernant le mariage. Et encore, le mariage, dans notre loi, c'est une option parmi d'autres. On a aussi le pax et le concubinage qui sont officiellement reconnus dans le Code civil, et où il n'y a pas cette notion de fidélité. En revanche, pour les Juifs, c'était dans ces 10 commandements, et on a dit que ça pouvait correspondre plus ou moins à la Constitution. Vous imaginez une telle règle dans notre Constitution ? Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité qu'on veuille accorder dans nos lois, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on mettrait plus en avant la liberté individuelle de disposer de son corps, n'est-ce pas ? Quand on regarde autour de nous, la tendance est plutôt à banaliser l'infidélité conjugale. Aujourd'hui, on met en avant, sans aucune gêne, des sites de rencontres spécialisés dans l'adultère. Cette semaine, j'écoutais une émission à la radio qui parlait de l'infidélité conjugale féminine. Alors bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'ils en parlent avec un regard moral en disant que non, c'est pas bien. Par contre, là où j'ai vraiment été scotché, c'était que le message qui était derrière cette émission, c'était de dire « Ah ben, enfin, aujourd'hui, on banalise plus facilement l'infidélité conjugale féminine, et en ce sens-là, on se rapproche de la banalisation de l'infidélité conjugale masculine, et donc on rejoint un peu cet idéal d'égalité des sexes. » Je me suis dit « Waouh, où est le progrès là-dedans » Ça, c'est très révélateur de l'opinion publique aujourd'hui, n'est-ce pas ? Quelle est notre référence à nous ? Est-ce que c'est l'opinion du moment ? Ou est-ce la vie de Dieu qui compte pour nous avant tout ? Or, Dieu juge clairement la fidélité conjugale. Dans l'Épître aux Hébreux, une des recommandations finales, donc à la fin de cette lettre, qui est laissée aux destinataires qui étaient des chrétiens à Rome, « Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Bon, alors, je vous avais promis qu'on s'intéresserait à ce qu'on apprend sur Dieu de chacun de ses commandements. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici ? Est-ce que Dieu est un empêcheur de tourner en rond ? Est-ce que c'est un sadique qui veut nous empêcher de faire ce qu'on veut, qui veut restreindre notre liberté par malin plaisir ? Non, évidemment. Dieu veut simplement protéger le mariage parce qu'il veut nous protéger. Le mariage, c'est le noyau social, c'est le noyau de notre société. Et c'est Dieu qui l'a institué, le mariage. C'est un lien fort, il a voulu que ce soit un lien fort, bon et solide, dans lequel les époux peuvent s'épanouir, être le vis-à-vis l'un de l'autre, devenir une seule chair, et qui est le cadre idéal pour fonder une famille, avoir des enfants. Si on tolère l'adultère, on va tout de suite fragiliser ce lien. C'est mettre en péril la famille. Et on oublie trop souvent que un mariage, ce n'est pas juste une affaire privée entre un homme et une femme, ou entre deux personnes du même sexe maintenant en France. Non. Le mariage, ça concerne aussi la famille, les proches et la société en général. Quand un couple bat de l'aile, quand un mariage se brise, ce n'est pas uniquement les époux qui sont brisés, qui sont touchés. Les enfants, le reste de la famille, les amis, même la société est impactée, moralement, socialement, même économiquement. Soyons conscients qu'un mariage, c'est une affaire publique. Alors certains pourraient se dire, bon ben la solution, pas commettre d'adultère, il suffit de pas se marier, comme ça on fait ce qu'on veut. Alors ça, cette logique-là, c'est la logique, j'allais dire, des avocats qui vont être plus ou moins honnêtes avec la loi et qui vont utiliser toutes les subtilités du texte pour contourner les lois tout en restant légal. Alors forcément, c'est pas du tout cette logique-là qu'avait Dieu quand il a donné des lois au peuple. C'est ce que Jésus a mis en avant et il a vivement critiqué les pharisiens qui avaient un peu cette logique-là de jouer un peu avec les textes comme ça les arrange. Et donc on peut lire encore dans le sermon sur la montagne l'interprétation que Jésus fait de ce commandement. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ah, intéressant. Jésus va beaucoup plus loin que le texte de la loi. Et c'est encore une fois dans les pensées que ça se joue. Tout commence dans les pensées. Comme j'ai dit tout à l'heure, une loi humaine ne peut pas s'intéresser aux pensées. D'imaginer les procès d'intention, ce serait ingérable. Mais c'est là que tout commence. Dans la Bible, il est rapporté un triste et célèbre exemple d'adultère, celui du roi David qui avait volé la femme d'un autre, Bathsheba, elle s'appelle. Et tout avait commencé dans ses pensées quand il l'avait vue, qu'il l'avait convoitée, et les conséquences étaient dramatiques pour cette femme, pour son mari qui était mort, pour David lui-même et toute sa famille, et pour le peuple, je pense aussi. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus propose aussi une solution. Quand on lit plus loin, « Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Alors la pensée juive est une pensée très imagée, mais du coup c'est très parlant, n'est-ce pas? Et nous alors? Quel est l'œil droit que nous devons arracher dans notre vie? Quelle est la main droite que nous devons couper et jeter loin de nous? Est-ce telle émission à la télé, tel site internet, tel endroit, telle fréquentation, etc. Je vous laisse réfléchir pour vous-même, et pour moi-même, je suis tout à fait concerné aussi. Passons à la suite. Tu ne commettras pas de vol. Bon, cette fois-ci, je vais vous épargner la définition du petit Robert. Je pense que vous avez une idée assez claire de ce que c'est, n'est-ce pas? Que nous révèle ce commandement sur Dieu? Encore une fois, c'est que Dieu aime les hommes. Et il veut les protéger contre eux-mêmes. Si le vol était normal, s'il était accepté, imaginez ce que ça donnerait dans notre société. Ce serait un peu la loi de la jungle, comme pour les animaux, n'est-ce pas? Alors que interdire le vol, c'est protéger chacun d'entre nous, et en particulier les plus faibles, qui, dans la loi de la jungle, seraient détruits. En fait, prendre quelque chose qui revient à l'autre, c'est vouloir défaire le cadeau que Dieu lui a fait. Quelque part, c'est porter atteinte non seulement à l'autre, mais aussi à Dieu. Bon alors quand même, voler, c'est quoi? Alors, ça ne se résume évidemment pas uniquement à un cambriolage, à piquer le sac à main d'une vieille dame dans la rue, ou piquer une orange à l'épicerie du coin. Alors, il y a des formes de vol qui sont apparemment moins violentes et qui peuvent nous sembler moins graves, et pourtant, l'évasion fiscale, le travail au noir, la fraude aux allocs, le téléchargement illégal, le piratage en tout genre. Bon, je ne vais pas faire une liste plus longue que ça, mais il y a plein de choses qui nous paraissent plus acceptables, mais foncièrement, derrière, ça revient aussi à du vol. Alors forcément, on est capable de se donner des bonnes excuses. Et moi, je suis le premier là-dedans. Pour trouver des arguments, pour dédramatiser tout ça. Oh, mais c'est pas si grave. Oh, puis avec tout ce que je donne déjà à l'État, j'en vois pas beaucoup la couleur, etc. Et je pense que pour ce commandement, comme pour les autres, de la même manière que Jésus nous invitait à diagnostiquer un meurtre ou un adultère au-delà des simples actes qui étaient commis, on peut aussi étendre ce commandement sur tout ce qui conduit à respecter la justice sociale. Toute pratique, aussi légale soit-elle, mais qui favorise l'injustice sociale, pour moi, c'est dans la même veine que le vol, même si on s'éloigne de la définition du vol. Bon. Alors, mon objectif ce matin n'est pas de nous culpabiliser, hein. Simplement de réveiller nos consciences. Dieu a le souci des faibles et des opprimés. Et il a créé le monde avec tant d'abondance, tant de richesses, il y en avait assez pour tout le monde, et il y en aurait assez pour tout le monde si ces richesses, elles étaient partagées, si elles étaient mieux réparties. Si nous voulons suivre Jésus-Christ, c'est donc tout à fait normal, naturel, que nous allons aussi vouloir le suivre dans cette préoccupation de la justice sociale. Ça peut être dans notre manière de gérer notre argent, comment on va acheter tel projet qu'on va encourager ou ne pas encourager, etc. Il y a plein de petites actions au quotidien où on peut favoriser ou non la justice sociale. Donc, passons au suivant. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors je pense que si j'avais fait un test où chacun devait écrire sur un papier quels étaient les 10 commandements, je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, et je pense moi en premier, à la place de celui-là, on aurait écrit « Tu ne mentiras point », n'est-ce pas ? Et pourtant ici, il s'agit bien clairement de porter un faux témoignage dans le cadre d'un procès. Alors il faut savoir, pour le contexte, que dans la loi juive, le témoignage convergent de deux témoins à un tribunal pouvait être suffisant pour condamner quelqu'un à mort. Là, on est saisi par la gravité de l'enjeu. Donc en fait, ce qu'un tel commandement nous montre de Dieu, c'est son souci de préserver la justice. Et nous préserver de la justice. Bon alors, le mensonge dans tout ça, il n'est pas dans les 10 commandements alors ? Bon, je répondrai que, avec la même logique qu'on a vue depuis tout à l'heure, Jésus voyait plus loin que ce qui est écrit dans un texte de loi. Et je pense que ce n'est pas une ineptie de dire que le mensonge est aussi rejeté par Dieu et condamné par lui. D'ailleurs, si on regarde dans la Bible, il y a plusieurs exemples où le mensonge est dénoncé. Et moi, je pense en particulier à ce cas terrible d'Ananias et Saphira qui ont été foudroyés morts pour avoir menti. Quand on lit ce texte, on a l'impression que c'est complètement disproportionné. Qu'est-ce qu'ils avaient fait comme mensonge ? Ils avaient juste menti, menti sur le montant de la vente de la propriété qu'ils avaient fait pour donner l'ensemble du produit de cette vente à l'Église. On peut dire, oh, c'était bien quand même. La seule chose qui leur a été reprochée et ils ont été foudroyés morts, c'est qu'ils ont menti sur ce montant-là, parce qu'ils voulaient en garder une partie pour eux. Alors qu'ils n'étaient même pas obligés de faire cela. Dieu ne tolère pas le mensonge non plus. Alors, le dernier pour aujourd'hui. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Allez, je vais vous redonner du petit Robert. La convoitise, c'est un désir immodéré de posséder quelque chose qui n'est pas à nous. Alors, on peut noter qu'il ne s'agit pas juste de désirer posséder. Il est question d'un désir immodéré de posséder quelque chose qui n'est pas à nous, effectivement, sinon il y aurait moins de problèmes. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire, un désir immodéré de posséder quelque chose ? C'est quelque chose qui va obséder nos pensées, on va penser qu'à ça, on la veut cette belle voiture. Peut-être que ça peut nous conduire à prendre des décisions qui sont pas judicieuses, des solutions, enfin des décisions qui vont nous créer des problèmes. On va s'endetter, on va créer du tort à quelqu'un, on va briser une relation, ça aura des conséquences sur nous après. On peut imaginer plein de choses. C'est ça, un désir immodéré qui nous pousse à faire quelque chose qu'on va regretter après. Alors, ce qu'on peut dire, qu'on apprend sur Dieu encore là-dessus, et ça va rejoindre tout ce qu'on a vu tout à l'heure à propos notamment de l'élargissement de la loi que faisait Jésus, c'est que Dieu s'intéresse en amont, à la racine du péché. La convoitise rentre tout à fait là-dedans. C'est la racine du péché. Tout commence dans nos pensées. Par un tel commandement, Dieu nous montre qu'il est conscient que nous sommes fragiles. Il se préoccupe de nous, il veut nous empêcher de tomber. Jésus l'a bien dit, c'est ce qui est dans le cœur de l'homme qui souille l'homme plus que ce qui vient de l'extérieur. Et l'apôtre Jacques dit que la convoitise entraîne le péché et donc la mort. Une fois de plus, Dieu nous montre sa sollicitude, son amour pour nous, en nous donnant des garde-fous pour ne pas tomber. Alors, avant de conclure, j'aimerais tout simplement résumer les différentes choses que nous avons vues dans les 5 derniers commandements et qui nous apprennent des choses sur Dieu. La première, c'est que Dieu accorde une grande importance à la vie humaine. Il est le Dieu de la vie et il est donc normal qu'il souhaite la protéger. Tout ce qui porte atteinte à la vie d'autrui, que ce soit directement ou pas, que ce soit physiquement, psychologiquement, socialement, économiquement, spirituellement, tout cela, c'est une agression non seulement contre la personne, mais contre Dieu et son projet. Deuxième chose, Dieu accorde une importance capitale au mariage. Dans son amour pour l'homme, il a inventé un cadre solide qui favorise le développement de la vie. Fragiliser le mariage, c'est non seulement fragiliser des vies humaines, mais c'est aussi casser une partie de la création de Dieu. Troisièmement, Dieu se soucie que les richesses qu'il a créées en abondance pour tous les hommes leur parviennent, qu'elles ne soient pas retenues par certains d'entre eux. Tout vol ou tout obstacle à l'accès par les hommes à ces richesses est une entrave à la providence de Dieu. Quatrièmement, Dieu a soif de justice et ne supporte pas qu'un être humain meure injustement à cause de la calomnie. Et enfin, Dieu sait que nous sommes fragiles et il nous donne un plan de prévention pour nous garder de chuter trop facilement. Bref, si je devais résumer tous ces enseignements sur ce qu'on apprend sur Dieu, je dirais simplement, Dieu aime les hommes et il les protège. Alors pour finir maintenant, j'aimerais revenir à la question de cet homme religieux qu'on a vu au début, qui était venu avoir Jésus pour savoir comment avoir la vie éternelle. La réponse de Jésus nous interpelle. Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. Et plus loin, il dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et encore, vous connaissez cette image, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut faire vœu de pauvreté, de vivre dans le dénuement et de tout donner, de tout vendre? Certains l'ont compris comme ça. Moi, je dirais simplement qu'il faut être conscient que nos richesses, qu'elles soient matérielles ou autres d'ailleurs, ne doivent pas nous encombrer au point de ne pas arriver à suivre Jésus. Quelque part, plus on est attaché à ces choses-là, ou plus on aime autre chose que Dieu, plus ça va être difficile d'aimer Dieu. Jésus disait « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois ». Mais contrairement à ce que beaucoup d'hommes ont cru et croient toujours, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les religions, ce n'est pas parce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas que nous pouvons gagner la vie éternelle. La seule possibilité d'avoir la vie éternelle, c'est que Dieu nous la donne. De même que c'est lui qui nous a donné la vie, ce n'est pas nous qui nous sommes créés, de même, Dieu nous donne la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il n'y a qu'une seule solution, suivre Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La part que nous devons faire, c'est tout simplement de ne pas rejeter le cadeau qui nous est fait. Or, si on rejette Jésus, ça équivaut à rejeter le cadeau de la vie éternelle que Dieu veut nous offrir. Ce matin, peut-être que chacun d'entre nous sait qu'il y a quelque chose qui nous retient d'accepter ce cadeau, qui nous retient de suivre Jésus totalement. Peut-être qu'on est un peu encombré. Et je vous invite à incliner nos têtes dans la prière pour remettre ça à Dieu. Mais Seigneur notre Dieu, je te remercie parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui a donné en abondance, un Dieu qui veut notre bien, qui a tout mis en place pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons épanouis. Et pourtant, il y a eu tellement d'entraves à ton projet qui fait qu'il y a tant de souffrances dans le monde. Tout cela, c'est la conséquence du péché. Et merci parce que même si nous sommes encore aujourd'hui dans cette situation-là, tu as tout mis en œuvre pour nous retirer de la misère. Seigneur, merci parce que tu as prévu une issue de secours, une porte de sortie en Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, tu vois chacun d'entre nous. Tu connais nos pensées. Nous ne pouvons rien te cacher. Tu sais ce qui peut nous empêcher de te suivre. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides tout d'abord à en prendre conscience et que tu nous donnes la volonté et la joie de laisser tout ce qui nous empêche de te suivre, de te tendre la main et de marcher avec toi. Seigneur, merci parce qu'il y a tellement de bonheur que de marcher avec toi. Ce que tu nous donnes, ce que tu nous demandes, ce que tu nous demandes de faire, ce n'est pas d'appartenir à une religion ou de suivre un ensemble de règles. Ce que tu nous demandes et ce que tu nous offres, c'est une relation restaurée avec toi. Seigneur, merci parce que c'est un cadeau si précieux qu'il serait tellement bête de ne pas l'accepter. Seigneur, je te prie pour que ce matin, chacun d'entre nous, nous puissions vraiment accepter ce cadeau que tu nous as fait. Gloire à toi, Seigneur. Amen.